Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal, bonjour à toutes et à tous.
Il est 6h40, c'est l'heure de votre journal des idées en ce 1er novembre et à la veille, Jacques, du jour des morts de novembre. Vous revenez sur le sens largement partagé du soin porté à nos défunts.
Eh oui, dans un beau livre au titre évocateur, La vie qui unit et la vie qui sépare, le philosophe Frédéric Worms abordait la question du sens de la vie en évoquant ces moments où, par excès ou par défaut, nous éprouvons concrètement la densité de l'existence, par excès, dans la rencontre amoureuse par exemple, qui vient saturer le sens de la vie en lui ajoutant une projection vers l'avenir, par défaut lorsque la disparition d'un être cher semble dépouiller la vie de toute forme de sens. Or, montrait-il, dans les deux cas, c'est de la même réalité qu'il s'agit. Dans le deuil d'un proche, la vie intime des souvenirs acquiert une force qui peut dépasser celle qui, comme on dit, suit son cours, oublieuse et indifférente. C'est sans doute pourquoi les humains ont, depuis la nuit des temps, soigneusement ménagé ce moment de passage par des rites funéraires et une période de deuil socialement convenue. Malgré leur grande diversité, tous ces rites se résument à une opération destinée à séparer le défunt du monde des vivants à travers trois grandes étapes, voir, cacher, sacraliser, un programme conférant une forme globale à l'événement. C'est ce que montre Éric Crubezy, médecin archéologue, dans un livre qui vient de paraître chez Odile Jacob sous le titre « Aux origines des rites funéraires, voir le mort » permet de réaliser l'événement et c'est pourquoi l'absence du corps est si difficile à vivre. Après la Première Guerre mondiale, combien de parents ont assisté sans broncher à l'ouverture de la tombe de leur fils, dont ils se demandaient s'il était bien décédé, souvent méconnaissable et dans un état de décomposition avancé, mutilé et couvert de terre. Le cadavre était identifié par une médaille ou une plaque en fer portant le numéro d'inhumation. Tous les témoignages soulignent le soulagement des proches qui ont pu voir et identifier les corps. La deuxième étape consiste à cacher le corps, l'ensevelir ou le crématiser, le momifier ou l'abandonner rituellement aux animaux sauvages, voire l'ingérer par morceaux. Chez les Tibétains, les funérailles célestes, qui consistent à découper le corps et à en donner des morceaux aux vautours, sont parfois considérées comme une forme d'endocannibalisme dissimulé, ce qui est discutable, estime Éric Crubezy, car la symbolique de l'oiseau qui se repaît et repart au ciel est très forte. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le moribond avait le droit d'exprimer son opinion sur le sort réservé à sa dépouille. Il pouvait également préciser lesquels de ses parents devaient être autorisés à goûter de sa chair. Un tabou s'impose en général, les parents directs ne se mangent pas eux-mêmes et jamais une mère ne mange son enfant. Enfin, pour sacraliser et métamorphoser le défunt, troisième temps des rites funéraires, il peut s'avérer nécessaire de procéder à des secondes funérailles comme sur les hauts plateaux de Madagascar où le corps est sorti du tombeau pour y être replacé dans de nouveaux linceuls. Conclusion, pour accepter la mort, ce que nous appelons faire son deuil, il faut tuer psychiquement le mort, comme l'explique la psychanalyse en l'inscrivant dans des traces qui permettent progressivement un nouveau lien avec le défunt. Cette troisième phase du processus de séparation d'avec les vivants vise à les conduire dans un autre monde, celui des morts de la communauté, des ancêtres ou des esprits. Parfois, elle prescrit une attitude spéciale à l'égard du nom du défunt. Dans un ouvrage paru chez Imago sous le titre « Les vivants et leurs fantômes, de la hantise aux symptômes », le psychanalyste Claude Guy raconte un souvenir parlant. Alors qu'on lui annonçait la mort d'un ami de sa mère, une petite fille de 4 ans dit « Comment il va s'appeler maintenant ?» Elle imaginait peut-être une forme de renaissance ailleurs, mais partout on peut constater une attention particulière à cet égard. À Rome, avant de fermer les yeux du mort, un proche lui faisait un dernier baiser en l'appelant plusieurs fois. Inversement, chez de nombreux peuples traditionnels, on doit s'abstenir de prononcer le nom du défunt, de peur de le faire revenir parmi les vivants comme un spectre. Chez les Baruya de Mélanésie, il est interdit de prononcer ce nom pendant deux générations, au terme desquelles il est redonné donner aux descendants. En Europe, les petits morts-nés sans baptême, qui n'avaient pas reçu de prénom, restaient sans sépulture reconnue. Leur âme errait dans les limbes comme des feux follets, poussant des cris et gémissements qu'on appelait la musique des saints innocents. Une tradition très répandue prévoyait pour eux des sanctuaires à répit. Les morts dont on n'a pas pu s'occuper comme il faut reviennent hanter la mémoire. Ils restent dans cet espace que Jacques Lacan avait appelé à propos d'Antigone l'entre-deux morts. Entre le temps de la mort physique et celui de la mort inscrite, c'est dans le domaine immarcessible des fantômes.